Temps d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. L'agriculture, ce secteur clé qui nous nourrit, fait travailler 4% d'Européens. Un chiffre qui cache mal les disparités entre les différents pays. En Roumanie, par exemple, le secteur emploie 20% de la population contre 1% seulement au Royaume-Uni ou en Belgique. Mais presque dans tous les pays européens, il y a de moins en moins d'agriculteurs du fait des difficultés qu'ils rencontrent. La France en est un bon exemple. Chute de la production, prix trop bas imposé par la grande distribution. Dans l'Hexagone, l'asphyxie et le malaise sont tels que depuis 2008, le nombre de suicides a explosé. Avec plus de 2 suicides par jour chez les agriculteurs, exploitants et salariés agricoles, selon la Mutualité sociale agricole. Pour briser le tabou qui entoure ce sujet, Camille Borin a décidé d'écrire un livre sur son histoire. Son mari, éleveur de porc, s'est suicidé il y a 2 ans. Il avait 31 ans. Lise Verbeck l'a rencontré.
Bonjour.
Bonjour, mon portable était survivant.
Camille Borin n'habite plus la ferme où elle a vécu plus de 10 ans avec son mari.
Je veux un café, hein.
Mais la jeune femme, qui a aujourd'hui 26 ans et qui a grandi en ville, est restée à la campagne.
J'étais citadine, je ne le suis plus depuis que j'ai rencontré mon mari, même si aujourd'hui il n'est plus là. Je fuis les villes, je préfère cet isolement.
Son histoire démarre en 2008 par un coup de foudre. Elle a alors 15 ans et quitte tout pour aller s'installer avec Augustin, agriculteur de 22 ans qui travaille dans la ferme familiale, un élevage de porcs et des cultures pour les nourrir. Camille découvre alors le milieu agricole.
Il m'a dit « je travaille du lundi au dimanche, n'espère pas partir en vacances ». Malheureusement, nous ne sommes jamais partis en vacances. C'était pas l'image que je m'étais faite de l'agriculture, pas aussi dure. C'était des heures acharnées de travail. Donc non, je m'en rendais pas vraiment compte, je pense, au début. Mais après, si, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait sur la vie d'un homme, sur la vie d'une femme et puis sur la vie d'un couple aussi, surtout.
Augustin travaille entre 60 et 70 heures par semaine et il reprend la ferme en 2011. Pour cela, il fait un prêt de 60 000 euros à 6% d'intérêt auprès des banques. Il faut alors relancer l'exploitation et la jeune femme travaille à ses côtés.
Sauf qu'on a repris un élevage vraiment... qui n'était pas remis aux normes, on va dire. Déjà au niveau travaux, il y avait beaucoup de travaux à faire et qu'on n'a pas pu finir. Mais les truies n'étaient pas renouvelées, donc une première année de jeunes installés où on sort que 265 porcs, alors que pour un élevage de 50 truies, on aurait eu la capacité d'en sortir 800 à 1000. Donc on part dans le rouge directement. Mais c'est à nous, et puis c'est un héritage familial, et c'est ça aussi. Je dis pas que c'est plus simple pour ceux qui reprennent une exploitation hors familiale, mais ils ont pas ce poids d'un jeune, cette pression de « bah moi ça vient de mon père, ça vient de mon grand-père, eux ils ont réussi, moi j'y arrive pas, comment je vais faire ?» Et puis à un moment, ils n'arrivent plus à savoir comment ils vont faire. Puis c'est cette honte de ne pas réussir.
En 2016, son mari fait une tentative de suicide. Camille l'empêche de justesse de se pendre. Elle l'emmène chez le médecin qui ne pose pas les mots sur son mal-être, la dépression et le burn-out. Le couple se sent alors isolé.
Au début, on reçoit plein de monde. Puis au fur et à mesure, mon mari déprime. Puis il n'y a plus personne. Donc ça, je trouve ça vraiment injuste. Pourquoi être là avant et pas être là pendant ? J'ai assez d'une main pour compter vraiment ceux qui ont été là pour nous aujourd'hui.
Et puis les soucis s'accumulent. D'abord des rats, puis des problèmes mécaniques et le prix du porc qui baisse d'1,50€ le kilo à 1€. Et enfin les banques qui refusent de renégocier le prêt. Face à l'étranglement financier, Camille doit trouver un autre emploi.
J'ai fait le choix en 2017 d'aller travailler à l'extérieur en plus de l'exploitation. Donc j'ai pris un mi-temps à 28 heures semaine. Je gardais des enfants après l'école pour éviter de nous prélever des salaires trop gros sur l'exploitation. Déjà qu'on n'en prélevait que très peu, 300€ par mois pour deux. Ça a été un choix difficile, autant pour lui que pour moi, puisqu'on était tout le temps ensemble. Mais j'ai jamais lâché. Ça m'arrivait le mercredi matin d'être sur mon lieu de travail à 8h15 jusque le tard le soir. Mais par contre, je préférais me lever à 5h30 et aller nourrir les cochons avant pour le soulager un maximum, vu que c'était pas toujours facile.
Le 27 octobre 2017, Camille a 24 ans et sa vie bascule.
Le matin même de son décès, dans la cuisine, 30 minutes avant de partir, il m'a dit « Camille, je ne veux plus être agriculteur ». Je lui ai simplement dit que c'était son choix, que mon but c'était de tout faire pour qu'il reste en vie, que l'exploitation continue ou pas. Mais je lui ai simplement dit que moi je respectais son choix et que s'il était plus heureux à arrêter, on arrêterait. Je savais alors que jamais plus nous dormirions ensemble. Jamais plus nos corps ne se réchaufferaient l'un l'autre jusqu'à devenir fusionnels. Le tien était froid, désormais.
Dans son livre « Tu m'as laissé en vie », elle a voulu témoigner.
Ça n'a pas été un réel plaisir d'exposer ma vie privée à travers un livre. C'était surtout pour me dire qu'il n'était pas parti pour rien, pour faire comprendre aux gens l'envers du décor, parce que moi, je détaille tout. Donc, c'était important pour moi de le faire, pour lui, pour mes neveux et nièces, pour qu'ils gardent une trace de leur oncle. Il ne les a pas abandonnés, il ne nous a pas abandonnés. Il a juste décidé de ne plus souffrir et que nous, on soit heureux pour lui. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Briser le tabou aussi, oui, pour dire bah stop, faut que ça s'arrête.
Camille met en garde les jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui, mais surtout les consommateurs et l'État qui doivent agir selon elle dès maintenant pour sauver les agriculteurs.
Réussir à survivre dans un monde de plus en plus industrialisé, autre exemple de la nécessité pour le secteur agricole de se réinventer, celui des meuniers en Autriche, les fabricants de farine. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le pays comptait 5000 minoteries. Aujourd'hui, ils sont 100 à peine à moudre le grain. Le marché est dominé par une dizaine d'entreprises industrielles, alors que le plus grand nombre de producteurs, qui pour certains fonctionnent encore grâce à un moulin à eau, luttent pour leur survie. Notre correspondante Céline Béal est allée à la rencontre de ces meuniers.
Au poste de commande de la minoterie Finis Feinstes à Schwechat, dans la banlieue de Vienne. Une équipe de 3 hommes contrôle, via 7 moniteurs, la production de la farine. Au moment de la relève pour l'équipe de l'après-midi, le directeur de la production, Alexander Kriegel, donne ses instructions. T-shirt blanc et bonnet blanc sur la tête. Alexander Kriegel a 33 ans et il est meunier depuis près de 20 ans. Dans les documents officiels, le meunier s'appelle en réalité aujourd'hui en Autriche technicien de l'industrie céréalière. Il a beaucoup changé.
Ce n'est plus comme avant les images que l'on peut avoir de moulins à vent ou à eau et du meunier sur son âne. Ceci dit, le principe de séparer, tamiser et moudre le grain, lui, est foncièrement resté le même ces dernières décennies. Le progrès technique, les machines ont juste amélioré le rendement. Le savoir-faire des meuniers est encore très très demandé.
Cette minoterie est la plus grande d'Autriche. Ici, 65 employés, dont 12 meuniers, travaille avec des milliers de machines pour produire 520 tonnes de farine par jour. L'établissement appartient à un grand groupe international basé en Autriche, Good Mills. C'est le leader de la production de farine en Europe centrale et de l'Est. Cependant, tout n'est pas rose. Le PDG de la filière autrichienne de Good Mills, Peter Stahlberger, fait état d'une branche en difficulté.
Quand on voit toute cette technique qui est requise et les efforts qui sont faits en amont du côté de l'agriculture, ça fait mal tout simplement de constater qu'une tonne de papier usagé est vendue parfois plus cher qu'une tonne de farine. On ne se rend pas compte que les céréales, les farines, le pain et les produits de boulangerie sont les denrées de base les plus importantes, notre pain quotidien.
Le secteur de la farine en Autriche est marqué par une très forte concurrence. Pour Peter Stahlberger, il y a trop de minoteries, alors que la consommation de pain est en baisse. Ces 30 dernières années, le nombre d'entreprises a déjà été divisé par 2, mais peu d'Autrichiens le savent.
Les moulins meurent dans le plus grand silence, et cette disparition silencieuse qui est en cours n'est certainement pas encore achevée. Beaucoup de petites et moyennes minoteries vont disparaître du marché à l'avenir, à cause de problèmes économiques, mais aussi un problème de relève qui n'est pas assuré.
Souvent, la survie d'une petite entreprise dépend en effet de la présence dans la famille d'un jeune qui la reprendrait. Sauf qu'il est difficile d'intéresser les jeunes à la meunerie, rapporte le chef de la production à Schwechat, Alexander Kriegel. Personnellement, il est très satisfait d'avoir pu recruter Benjamin Braunbock. Ce jeune homme de 16 ans débute ici sa seconde année d'apprentissage. Il explique que la plupart des gens de son âge n'ont jamais entendu parler du métier de meunier.
La plupart ne savent même pas ce que c'est quand je leur explique ce que je fais. Ils sont étonnés que ce soit un métier. Il faut dire qu'il n'y a pas tant de monde qui le fait.
Mais alors, qu'en est-il de ces nombreux petits moulins qui subsistent quand même encore en Autriche? sans la jeune génération et écrasés par la concurrence, sont-ils voués à disparaître, comme l'affirme le PDG de la grande minoterie ? Pour le savoir, direction une petite région autrichienne qui s'appelle le Mühlviertel, le quartier des moulins. Autrefois, ils s'alignaient nombreux le long des cours d'eau. Il n'en reste plus que 6, dont le Stritzelmühle à Lembach, un moulin à eau, enfin en tout cas quand le ruisseau local n'est pas à sec. Ici, le meunier Johann Falkinger, 58 ans, court pieds nus sur les marches en bois qui relient les 4 étages de son moulin. Celui-ci est en possession des Falkinger depuis 1885. Et Johann Falkinger est optimiste pour la suite. Il a fait évoluer son entreprise. D'abord, sa femme, Véronica, produit maintenant du pain, directement sur place, qui est très apprécié de la clientèle. Ensuite, il a su trouver des marchés de niche.
Par exemple, dans notre région, nous avons un seigle biologique particulier qui s'appelle le seigle Schlegger. Il a été cultivé spécialement pour la région il y a un siècle et on l'a redécouvert récemment. Il y a des boulangeries qui ont beaucoup de succès avec le pain produit à partir de ce seigle et nous sommes le seul moulin qui est capable de le moudre.
Pourquoi le seul moulin ?
Parce qu'il n'y a plus d'autres petits moulins. Les gros moulins ne sont pas capables de moudre d'aussi petites quantités. En dessous de 1000 kilos, il n'y a rien qui sort de la machine.
Une de ces boulangeries à succès dont parle Johann Falkinger se trouve dans la ville voisine de Rohrbach. Le jeune boulanger, Peter Oberngruber, explique que la taille du moulin, artisanal ou industriel, n'influence pas le goût de la farine. S'il a choisi de se faire livrer une partie de sa matière première par le petit moulin Falkinger, c'est pour produire en circuit court. Et puis...
À notre époque, tout le monde aspire à un retour aux sources, à la lenteur. En voulant toujours toutes sortes de certifications et de standards, on oublie que la simplicité que nous voulons, elle est là, à portée de main. Elle se trouve devant notre porte, si on cherche.
Il faut croire que les consommateurs locaux apprécient cette idée de la simplicité, puisque son pain de seigle, produit à partir de la farine du petit moulin d'à côté, a même été récemment couronné « meilleur pain de seigle » d'Autriche.
À Berlin, Paris ou Londres, on les voit partout, ces trottinettes qui filent à toute allure grâce à leur moteur électrique. Depuis août, c'est aussi le cas de Sofia, en Bulgarie. Dans ce pays, plusieurs start-up sont déjà en concurrence pour s'accaparer ce nouveau marché du transport. Et les autorités réfléchissent à de nouvelles lois pour réguler cette forme de mobilité. Les explications de notre correspondant, Damien Vodenicharov.
Elles sont apparues du jour au lendemain. Il n'y en avait pas. Ou peu, et en un clin d'œil, on s'est mis à en vendre dans les magasins spécialisés, on en retrouve en libre-service à chaque coin de rue, et on parle déjà de nouvelles lois pour gérer cette nouvelle forme de mobilité urbaine. C'est l'entreprise américaine Lime qui a d'abord lancé l'idée, et ses premières trottinettes électriques ont commencé à circuler à Sofia en août. La concurrence n'a pas tardé, Bird, un autre opérateur, est arrivé avec quelques semaines de retard, de même que Hobo, une start-up bulgare. En tout, plus de 500 engins sont dans les rues de la capitale et ça se voit. Une soixantaine de places de parking dans le centre sont maintenant dédiées aux trottinettes, au grand chagrin de ceux qui se déplacent encore en voiture. Les Sofiotes s'habituent à voir des trottinettes abandonnées ici et là et pour l'instant c'est un succès malgré des prix plutôt élevés par rapport au pouvoir d'achat des Bulgares. Les locations commencent à 1,50 €, soit environ 75 centimes d'euros et le trajet à la minute est facturé à 15 centimes d'euros. Les prix très proche de ceux en France donc. Cependant, ça en vaut la peine pour de nombreux usagers. La circulation à Sofia est de plus en plus difficile et les transports en commun de plus en plus chers en raison de larges investissements. Autre problème, la régulation. Pour l'instant, cette nouvelle forme de mobilité n'est pas régulée ni au niveau municipal et encore moins au niveau national. Des projets de loi sont prévus pour intégrer les trottinettes électriques au code de la route. En attendant, les opérateurs et la mairie ont une entente pour limiter la vitesse à 25 km/h et à la réduire davantage dans les espaces publics comme les parcs et les rues piétonnes. Reste à voir aussi ce qu'il adviendra des trottinettes pendant l'hiver lorsque les températures peuvent descendre jusqu'à moins 15.
Hablemos de corazón, las cosas son como son. Así es la vida.
Más de amar, de igual a igual. Et c'est l'heure de notre chronique en un mot souvent intraduisible mais qui en dit long sur la culture du pays. Direction Madrid aujourd'hui avec l'expression « las cosas como son », les choses sont comme elles sont. Une expression utilisée partout et qui raconte un peu de l'identité espagnole, faite de fatalisme mais aussi de tabou, comme l'absence de volonté de trop fouiller dans le passé, François Musso.
Cet hymne joyeux dit à l'infini « Je suis espagnol, espagnol, espagnol ». Ses supporters fêtent la victoire au championnat européen de football en 2008. Ce sont des cantiques de liesse, mais ces jours-là, et d'innombrables fois depuis lors, ce sont des millions d'Espagnols qui ont chanté cette courte phrase « Je suis espagnol, espagnol, espagnol ». L'importance de répéter trois fois la même chose, comme pour s'en convaincre, comme pour se réaffirmer, pour insister aussi sur d'où on vient. C'est la même insistance que pour l'expression qui revient si souvent, « las cosas como son », les choses sont comme elles sont. Ana Quemada est franco-espagnole, étudiante en sciences politiques et en administration publique.
On ne cherche pas vraiment à expliquer parce que c'est quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui coule de source en fait. Par rapport au football ou par rapport aux corridas et aux taureaux, je pense que ça a à voir également avec le fait que c'est la tradition et qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer parce que c'est quelque chose qui est dans la société en fait. On sait tous ce que ça veut dire. Los toros son los toros, c'est la chose la plus évidente parce qu'il y a énormément de débats sur le sujet de la tauromachie. Les défenseurs de la tauromachie, avant tout, ce qu'ils disent c'est los toros son los toros. C'est un art, ça fait partie de la tradition espagnole et on peut être pour ou contre, on peut trouver ça beau ou pas, mais on peut parfaitement dire que ça représente quelque chose qui est indiscutable.
Las cosas como son, les choses telles qu'elles sont. On retrouve cette expression partout, et tant d'autres. Un mariage, c'est un mariage, un tel, c'est un tel, ce sont des codes. Quand on les emploie, on sous-entend que l'interlocuteur comprend de quoi on parle. Un mariage espagnol, cela veut dire se donner à fond et se moquer des conséquences. Un tel est une personne extraordinaire ou imprésentable. C'est une façon de cultiver l'implicite à travers le langage. Et si l'implicite est aussi présent, c'est pour deux raisons principales. La première est liée au poids du destin et de la fatalité dans la psyché espagnole. Si les choses sont comme cela, c'est parce qu'elles doivent être comme cela et il n'y a donc rien à redire. Depuis le XVIe siècle, l'Espagne a été un pays très isolé, qui a peu évolué, très replié sur lui-même et ce, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale comprise. Les changements de mentalité sont spectaculaires, certes, mais très récents. L'autre raison tient à l'existence d'une guerre civile entre 1936 et 1939 et à 40 ans de dictature qui ont suivi. Conséquence, il y a de nombreux sujets tabous qu'on préfère éviter pour ne pas ressusciter les vieux démons, d'où aussi cette expression très employée, « el pasado, pasado está ». Le passé, c'est du passé. Deux raisons qui éclairent l'importance des tautologies. Et si ce genre d'expression tautologique pullule dans le langage espagnol, ce n'est pas seulement pour dire moins, c'est aussi, selon le contexte, parfois, pour dire plus, pour emphatiser, donner une résonance à un concept, à une activité, à une personne, à un paysage. Laura De Maria est journaliste écrivain.
Nous, les Espagnols, on est très extravertis. On veut tout partager, nos idées, nos expressions et nos vies. Notre langage est très imagé. C'est du théâtre. Nous dramatisons beaucoup. Quand nous célébrons quelque chose, quand nous commentons quelque chose avec des amis, avec des gens qui nous sont chers, on y met beaucoup d'emphase.
Il y a aussi parfois une dimension poétique dans cette tautologie. Una rosa es una rosa, une rose est une rose. Dans les années 80, le groupe emblématique madrilène Mecano reprenait cet aphorisme de Gertrude Stein, une chanson qui en Espagne est toujours aussi écoutée aujourd'hui.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous écouter tout le temps, partout, rendez-vous sur notre site rfi.fr dans la rubrique podcast. À demain.